C'est vrai que je travaille beaucoup les images, notamment sur Photoshop. Alors des fois pour complètement les trafiquer, mais d'autres fois non, juste pour renforcer mon message. Sur une série comme Wonder Pools qui joue sur les formes plastiques, dans
des
tous
piscines.
Les sens du terme, des piscines, voilà. Là, c'est lollipop, c'est vraiment, c'est sirupeux, c'est des coques en plastique qui sont dans l'autopromotion, qui ont aussi la rugosité de leur revers, donc... Là, je ne m'interdis pas, si je dois supprimer des éléments qui sont parasites, de renforcer ce côté vraiment intense, de quasi publicitaire de l'image, et puis avec cette espèce de côté complètement étrange.
Oui, un peu fantastique.
Rencontrer ça en pleine nuit, voilà. Mm-hmm. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on ne fait pas des voyages de milliers de kilomètres sur des nationales, mais bon...
Oui,
quand on
oui.
arrive un peu fatigué sur une nationale, à la fin de son voyage, qu'on voit une énorme forme comme ça, éclairée par un spot halogène, ça fait quand même quelque chose.
Oui.
Donc voilà, et ce que je voyais dans mon travail, ce que j'avais la sensation de voir dans mon travail se jouer, c'était cette hybridation entre une image recomposée, et puis même la question que les gens se posaient, c'est qu'est-ce que tu as trafiqué ? Et sachant que souvent dans mes images, les images les plus trafiquées étaient celles qui semblaient naturelles et vice-versa. Donc, et puis aussi la relation aux images de synthèse, parce que c'est vrai que les amis artistes que je côtoie des fois me disaient « Pourquoi finalement refaire autant de choses sur tes images? Pourquoi tu refais pas tout de A à Z? Pourquoi tu composes pas des paysages en 3D ?» C'est des questions qui se posent, quoi. C'est vrai que quand j'ai commencé... mon travail photo, je suis parti d'Argentique, de travail à la chambre, et puis à côté les réseaux sociaux très vite, en fait, quasiment au moment de ma première grande expo, les réseaux sociaux sont apparus, donc ça a posé d'autres questions. Moi, une chose était sûre, c'est que je voulais avoir un objet, effectivement, vraiment. Et du coup, toute cette intervention, toutes ces heures de retouches pour arriver à un but, et puis aussi parce que je travaille lentement, très lentement. Et alors vraiment, c'est un vrai plaisir, je veux vraiment pas que ça change. Alors évidemment, au début, je faisais moins de repérage, parce qu'il y a la question de la chance du débutant. Et puis pour avoir un travail homogène, maintenant j'ai besoin d'avoir plus de repérages, d'errer plus. Mes photos sont des photos de nuit la plupart du temps. Bon, là, il y a justement quelques exceptions, puisque là aussi, l'idée de cette exposition, c'était quand même de pas non plus rester... dans ma position de photographe de nuit, je fais ça depuis 15 ans, donc je voulais essayer de voir si certaines faire ressortir des images anciennes, voir si certaines images anciennes, notamment de jour, pouvaient m'intéresser, ou certaines choses que je présentais. Et le fait de faire ces photos de nuit, en fait, pour moi, c'est une manière aussi de m'autoriser de tout recomposer, parce que déjà, quand on allume un spot, quelque chose existe, et puis surtout avec la pose longue, on peut faire apparaître des lumières qu'on perçoit à peine avec l'œil, qui sont là, mais que notre outil perceptif n'est pas adapté
habilité
à percevoir.
À voir,
et donc, avec l'expérience, c'est presque une sorte d'épiphanie, c'est-à-dire vraiment, on sait qu'une toute petite sensation de couleur va devenir une énorme couleur sur l'image, du coup, je peux travailler là-dessus, et ensuite faire remonter les choses, et vraiment... Donc voilà, j'aime beaucoup cette relation étrange à l'espace que ça peut donner, et puis aussi quelque chose d'assez intime, c'est-à-dire que dans ma relation au lieu, je suis tout seul la nuit, donc je peux vraiment composer ça comme un décor.
Quand on entre, on a des fermetures, mm-hmm. hein, et justement, c'est quand même assez particulier que de travailler la question du territoire avec des choses qui embouchent la visibilité quand même.
C'est un début
et du coup,
chose,
on a quelque chose d'autre.
C'est un début d'autre chose. D'ailleurs, les images, elles ont pour certaines au moins 50 de différence. C'est des tests que j'ai faits. Et puis, cette idée de vitrine. Enfin, en vérité, ce qui m'intéressait bien, mais c'est toujours une question de surface. Parce que là, en l'occurrence, toutes ces images, enfin, les deux vitrines, appellent à réfléchir à ce qu'il y a derrière la vitrine. Il y a toujours un débordement. Après moi j'aime ce qui brille aussi, du coup lumière de la nuit ou le rideau brillant, mais ce rideau brillant on sent très bien qu'il y a quelque chose derrière qui vient plaquer le rideau contre la vitre et tout ce qui m'intéresse c'est justement c'est ce qu'il y a derrière.
Qu'est-ce que ça cache
et
quand
voilà.
On arrive on se dit tiens qu'est-ce que ça cache
et
c'est déjà la première réaction qu'on va avoir mais très immédiate
et, hein. et pareil pour cette plante qui pousse les rideaux qui arrive qui contamine et du coup je trouve que quand même j'ai pas analysé particulièrement la chose hein. Pour l'instant il s'agit sur ces trois images il s'agit euh, euh, du, du, du d'une tentative de comment dire, de m'échapper des questions de série, de montrer des images comme ça qui me tenaient à cœur et qui, pour moi, avaient une
validité, évoquait
beaucoup de choses. Oui, voilà. Oui. Donc, je voulais voir comment elles fonctionnaient ensemble. Et puis, quand même, malgré tout, pour moi, ça rejoue, en fait, cette question de l'image, en fait, du factice de l'image. Donc, voilà, on a une vitrine, mais qu'est-ce qui se passe derrière ?
C'est
une analyse premier degré, hein,
j'en ai bien conscience.
Oui, non,
mais ça, qu'est-ce que ça cache ? Et en même temps, on est renvoyé à la matérialité du premier plan.
Voilà.
Et puis, c'est marrant parce qu'on passe son temps à faire ça. On est ramené à ça, puis après, on est ramené vers le lointain parce qu'on regarde les lumières noires.
Et ça joue encore sur les questions du tableau aussi, un petit peu, sur le format. Et puis, bon, là, sur les deux vitrines, il y a quand même aussi le reflet. Et puis, tout ce travail de Shadok, de Sisyphe, de vouloir des images que moi, je cherche les plus nettes possibles parce que j'ai pas envie qu'on ait une sensation de déficit par rapport à ce que je voudrais dire. Et cette image notamment avec le rideau où on va avoir un verre givré qui m'arrachait les cheveux parce que je me demandais pourquoi mon image était floue et en même temps je trouvais que la texture était belle et puis finalement, donc voilà, il y avait cette idée finalement il y avait une espèce de dégradation mais qui était faite par mon sujet lui-même.
C'est-à-dire que évidemment le problème de la photographie c'est que quelque part en tant qu'objet elle pose la question de la profondeur. Elle pose vraiment la question de la profondeur par rapport à la peinture. La peinture, la profondeur, elle la construit. La photographie, la profondeur est un donné. Donc qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, hein? Et donc dans vos images, on passe notre temps à voir soit le nez collé devant un premier plan, soit justement vers quelque chose qu'on n'arrive pas à percevoir, c'est la série des lumières noires, soit sur des paysages dont on a l'impression qu'on pourrait les voir de loin, et donc déjà ça y est, une espèce de recul, mais en réalité il y a une brume dessus, donc il faut se rapprocher pour aller regarder des détails, donc on s'interroge beaucoup sur, sur déjà ce que cette image est en tant qu'élément qui pourrait être réduit à simplement sa technicité, sa réalisation technique, son projet optique.
Depuis le début, en fait, il y a l'intuition, enfin en tout cas dans mon travail, j'ai l'intuition et le désir de travailler sur le factice. Donc j'emploie plusieurs méthodes, enfin sur cette série pose c'était des superpositions d'images et puis voilà, c'est vrai que moi du coup il fallait quand même, c'est toujours pareil, il y a aussi l'énergie originelle qui permet de produire des images ou quand on est dessinateur des dessins, alors en l'occurrence moi c'est vrai qu'au départ il y avait cette anecdote d'aller vers des lieux et une fois dans les lieux, petit à petit d'ailleurs, parce que cette série pose n'est pas très très homogène parce que moi, ce que je voulais, j'ai commencé à les développer. Bon, évidemment, pas au moment où je l'ai montré, il y a toujours un tel décalage. Mais à un moment où il y avait de grosses questions qui se posaient sur le droit à l'image, sur les gens qui prenaient en photo des paysages. Il y avait justement, pas si loin d'ici, l'affaire de la barque de Collioure, un photographe sans prétention de carte postale qui s'était ramassé un procès dingue. Parce qu'il avait photographié le port de Collioure et il se retrouvait avec une barque au premier plan et la personne réclamait des droits parce que c'était sa barque. Donc voilà, et à ce moment-là, je me suis dit que moi, j'avais vraiment pas envie de m'embourber là-dedans, que ça m'intéressait pas. Et du coup, ça m'avait donné la piste qui me plaisait bien de lieux anonymes, de lieux occidentaux. Je me pose la question de partir du réel. Donc voilà, très vite, on peut avoir des images bluffantes en faisant des photos d'avions. Donc j'essaye quand même, ça rejoint aussi mon propos sur les poses trop trop longues, je veux quand même rester sur une perception qui parle encore un peu de l'humain, enfin, dans sa relation au paysage.
C'est-à-dire, voilà. C'est moi qui m'amuse à ce que vous me dites, c'est qu'on est parti de cet avion furtif, hein, c'est que non seulement vous avez un peu la position de cet avion furtif, vous êtes un peu à espionner finalement le paysage, et après votre grand désir c'est de montrer un paysage qui n'existe pas.
Non, c'est le paysage que je vis, oui. C'est une vue d'esprit. C'est une vue d'esprit.
Et ça, c'est quand même assez particulier, quand même, un paysage qui est une vue de l'esprit. Comment dirais-je ? Quel sens ça a pour vous, cette affaire-là, finalement ? Voilà. Il n'existe pas, quoi, en fait, finalement. Hein. Vous faites exister quelque chose qui n'existe pas.
Ça
dépend. Par le temps de pose, ou par le fait du sujet.
Non,
ou
mais
pas.
Après, clairement, enfin, la photographie. Ça ne peut pas être réaliste. Enfin, je veux dire, dans l'histoire de la photographie, pour donner l'impression de la réalité, il faut faire des trucages. Il n'y a pas une photographie directe qui montrerait les choses telles qu'elles sont. Ça n'existe
pas. Bien que
la
photo de paysage, ça a quand même fait l'objet de grands travaux, d'exploitation. Enfin, la fameuse entreprise américaine de la... Il fallait faire...
La FSA.
Voilà. Il fallait vraiment aller faire une collection de photos de paysages.
Oui, mais c'est pas, ça n'a pas été aussi... Enfin, cette objectivité, enfin, quand vous regardez l'histoire de... Le mot objectivité qui vient de l'objectif, si on voulait aller jusque-là, c'est lourd de sens. Enfin, il suffit. Bon, moi, j'ai juste fait la démarche didactique et amusante de chercher sur le dictionnaire de l'histoire des mots d'Alain Rey d'où venait le mot objectif. Et le mot objectif, évidemment, c'est le procès, c'est comment dire, c'est l'outil qui est sur un appareil photo, l'objectif. On est bien d'accord, qui permet le dispositif optique, qui permet d'avoir une image propre, qui évite qu'on soit juste sur un sténopé. Mais initialement, l'objectif. C'est l'objet, c'est la lentille qui est sur une longue vue. Donc c'est l'objectif qu'on veut atteindre. Donc c'est biaisé, c'est forcément biaisé quand on veut arriver quelque part. Donc c'est exactement l'inverse. Il y a l'histoire de la perspective, mais il y a l'idée d'un but à atteindre, ce qui est exactement l'inverse de cette objectivité que viscéralement on accorde à la photographie en se disant t'as pris une photo, c'est ce que t'as sur la photo, c'est ce qui était devant toi. Mais pas du tout. Et d'ailleurs, pour en revenir à cette excavation là en Allemagne, il y a trois photos qui sont prises là-bas. Et les trois, alors évidemment, quand on regarde un peu, on peut voir qu'elles sont au même endroit, mais elles n'ont pas du tout la même ambiance lumineuse, alors qu'initialement elles l'avaient. Mais les images de ma série Lumière Noire sont très très scrupuleusement proches de ce que je percevais dans la nature.
Oui.
Ça change pas en fait. En fait, il y a moi, il y a le spectateur. Et du coup, moi, j'expérimente d'un côté. Pourquoi? Qu'est-ce qui me donne cette énergie de passer des nuits à faire des photos? Donc, je tente. Je vais dans plusieurs pistes qui m'exaltent. Mm-hmm. Voilà. Donc, l'une d'entre elles, c'est de parler de la perception de la nuit. Et je la représente de manière hyper, vraiment très très sérieuse. Enfin, dans la série Lumière Noire.
Mais oui, parce qu'on a temps, des petits points lumineux, voilà. Il faut vraiment s'approcher. Hein.
Et en même temps, c'est finalement une perception. Enfin, c'est pas...
C'est pas un rendu, naturaliste, etc.
Mais quel rendu, en fait, serait le rendu, de calibrage?
Qu'est-ce que le maître étalon?
Voilà, exactement, c'est ça le mot que je cherchais. C'est quoi le maître étalon du rendu réaliste? Est-ce que c'est nos yeux? Est-ce que c'est l'appareil photo?
En tout cas, vous travaillez cette question-là et vous essayez de faire bouger ça dans la conscience de celui qui regarde. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que je regarde? Oui. En quoi cette image-là me renvoie à quelque chose d'autre de ma vision sur la nuit, la nature, les paysages un peu inattendus? Enfin.
Bah, même la nature, enfin voilà, je parle vraiment du paysage. Et dès l'origine, d'ailleurs, quand je suis venu à la photographie, c'était pour parler du paysage. C'est quand j'ai arrêté de m'intéresser à la nature, aux photographies souvenirs de la nature, après plusieurs voyages où j'utilisais la photographie comme un souvenir, et où je me suis dit, mais voilà, la photographie... Tout ce que je reprochais à la photographie me semblait être un avantage et justement tout son enjeu, c'est-à-dire le paysage construit avec les signes qui donnent l'échelle, enfin ces choses-là. De toute façon, la nature n'est plus la nature dès qu'on pose un garde-homme et qu'on la met dans un cadre ou qu'on la reproduit.
Oui. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans vos paysages, il n'y a pas un seul être humain.
Ben, ils sont là quand même, ils sont là partout. Ils sont jamais là, mais je veux dire, leurs constructions sont toujours là. Et puis il y a une personne derrière l'appareil photo. Enfin, moi, ça me dérange vraiment, cet appétit boulimique de l'image, de se regarder le nombril en permanence, enfin, ça me dérange. On est dans tout, enfin, tout ça, là, autour de nous, la cloche qu'on entend derrière, tout ça, c'est humain, ça va, ça suffit. L'humain est dans toutes ces images, parce qu'il y a l'artificiel, il y a le construit dans toutes ces images, et justement, c'est ce qui structure la profondeur ou l'absence de profondeur sur cette image très brumeuse où j'ai...
Cette image de paysage brumeux.
Au premier plan, on voit, si on s'approche de l'image et qu'on prend le temps de la regarder suffisamment longtemps, on se rend compte qu'il y a une ligne, une légère ligne, et cette ligne, c'est un parking. Et là, d'un seul coup, ça devient Disney. Enfin, c'est un très beau paysage qui semble... Enfin, moi, je le trouve très beau.
Ah oui, il est beau, oui,
mais vraiment embrumé et très,
oui,
très...
Oui, il y a un côté des peintures de plein air de la fin du 19e, là. Voilà, c'est... Très coraux, très...
On croirait un bocage ancienne mode, quoi. D'une nature encore pas trop...
envahie et détruite et reconstruite,
sans
etc.
Sans les remembrements et tout ça, et puis on regarde en bas et on voit les traces d'un parking. Donc tout ça, ça pose ces questions-là. Et puis toutes ces images nourrissent notre appétit aussi pour la belle image. Je l'ai, cet appétit. Mais en même temps, qu'est-ce que ça pose comme question et à quel point on est esclave de nous-mêmes sur ce désir de belles images?
Je pense qu'on est à un moment, hein. C'est drôle parce que tout d'un coup, effectivement, ce rêve bleu qui ne devait pas être ce qu'il est, vous a obligé à vous poser des questions et à rassembler des éléments qui ne sont pas prévus pour une seule série. Donc on a plusieurs séries. Et c'est vous que vous avez mis en jeu.
Après, c'est drôle, moi, parce que c'est depuis, vraiment depuis, fou. Depuis, enfin voilà, s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que j'ai une énergie initiale qui me permet de faire les choses, une rigueur qui me permet de les faire.
Oui, oui.
Mais par contre, y a une part de hasard. Enfin, je ne suis pas au-dessus de ce hasard. Et j'arrive pas, justement, quand je suis arrivé là avec mes projets de Jean-Paul qui me coûtaient religieusement, mais en même temps en se demandant où ça allait aller, j'arrive pas avec une idée toute faite. Je ne peux pas. Faut bien que ça évolue, faut que ça ait son autonomie et puis que ça m'apprenne sur moi-même et puis sur ce que je veux faire. Enfin, donc j'accepte que les choses se passent pas comme je veux tout le temps, quoi.